Pierre de Ronsard, une révolution poétique. À l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Pierre de Ronsard, France Mémoire, la mission des commémorations nationales, vous propose une série en 6 épisodes pour entrer dans l'œuvre de ce poète étonnant de la Renaissance. Cette série, fruit d'une collaboration avec Luce Albert, maîtresse de conférences en littérature du XVIe siècle, est illustrée de poèmes interprétés par des étudiants de l'Université d'Angers. Vous écoutez l'épisode 1, Pierre de Ronsard, un aristocrate poète.
Je n'avais pas 12 ans qu'au profond des vallées, dans les hautes forêts des hommes reculés, dans les antres secrets de frayeurs tout couverts. Sans avoir soin de rien, je composais des vers. Je n'avais pas 15 ans que les monts et les bois et les eaux me plaisaient plus que la cour des rois.
Les paysages sauvages dont vous venez d'entendre une évocation fervente par Ronsard se situent dans la région dans laquelle il est né, c'est la région du Vendômois. Pierre de Ronsard, donc l'auteur de ces vers, y est né en 1524 et il y a passé les 12 premières années de sa vie à s'imprégner des images, des sensations qui ensuite vont nourrir cette veine d'inspiration pastorale qui parcourt son œuvre.
Donc en fait, la vocation de Ronsard, elle a été très précoce. Enfin, sauf s'il s'agit d'une construction a posteriori de son image de poète, ce qui peut aussi être envisagé.
Alors Pierre de Ronsard est le fils cadet d'un noble de province appelé Louis, qui est sans grande fortune, mais comme bien des aristocrates de sa génération, il hérite du goût des arts et de la poésie que ses aînés ont rapporté des guerres d'Italie. Et plus encore, il grandit vraiment dans cette idée nouvelle que la culture fait partie à part entière du prestige social. Donc le manoir de la Poissonnière, qui est situé non loin des résidences royales d'Amboise, de Blois, est la demeure familiale de Ronsard, et c'est un lieu agréable où Louis, donc le père de Ronsard, se plaît à recevoir des lettrés. Il a passé plusieurs années en Italie comme maître d'hôtel des princes. Il était effectivement au service des fils aînés de François Ier. Et donc, le père de Ronsard, quand le roi François Ier est fait prisonnier à la bataille de Pavie, vous savez, en 1525, la signature du traité de Madrid permet d'obtenir la libération du roi François Ier, mais en échange, François et Henri de France, ses deux fils, sont désignés comme otages pour garantir l'application de ce traité. Qui reste avec eux ? Louis de Ronsard, le père de Pierre, et Louis de Ronsard partagera la captivité de ses enfants de France en Espagne pendant 5 ans. 5 ans pendant lesquels son fils grandit à la Poissonnière, et quand il rentre chez lui, son fils Pierre est âgé de 6 ans.
Il est encore jeune, mais alors à quel âge va-t-il faire son entrée à la cour ?
La tradition familiale voue ce petit Pierre au service des princes, donc tôt, dès l'âge de 12 ans, il devient page à la cour de France, puis ensuite à la cour d'Écosse, parce que c'est là qu'il a suivi Madeleine, la fille de François Ier. À l'âge de 16 ans, il accompagne le savant diplomate Lazare de Baïf en Alsace et en Allemagne. Ce voyage est vraiment décisif pour Pierre de Ronsard, parce que Lazare de Baïf, d'abord, après Guillaume Budet, que vous connaissez probablement, qui est l'humaniste français le plus en vue, est également un diplomate et un humaniste fort connu. Et c'est grâce à lui, Lazare de Baïf, que Ronsard va rencontrer un de ses plus fidèles amis, qui n'est autre que Jean-Antoine, le fils de Lazare de Baïf, Jean-Antoine de Baïf, qui sera lui-même un membre de la future Pléiade, dont nous parlerons un petit peu plus loin. C'est aussi grâce à Lazare de Baïf que Ronsard rencontrera ses professeurs, parce que il va partager lors de ce séjour les cours, les leçons de grec que Jean-Antoine de Baïf suit avec son précepteur Jean Dorat. Et donc, vous voyez que Ronsard déjà profite des progrès des études hellénistes de son époque.
Et ça, il faut vraiment le souligner, ça serait une rencontre décisive pour son avenir.
En effet, il fréquente vraiment très jeune le milieu humaniste français, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la frange la plus érudite et aussi la plus antiquisante de la cour. Donc, vous voyez que dès le départ, tout concourt à donner à Pierre de Ronsard le goût des lettres et de la culture antique. Alors, il aurait pu finalement en faire un simple passe-temps, tout à fait comme son père l'a fait, son père Louis. Eh bien non, il en fera son métier. Et cela ne laisse pas d'inquiéter son père, je dois vous le dire, hein, qui aurait souhaité pour son cadet une activité tout de même plus rémunératrice, notamment. Rémunératrice, probablement en monnaie sonnante et trébuchante, mais peut-être en gloire également. Comme les premiers vers que nous avons entendus, vous allez entendre maintenant un passage qui est extrait d'un texte bien connu de Ronsard qui s'appelle l'Élégie à Pierre Lescot. Ce texte a été composé en 1560. Écoutons dans ce texte Ronsard père qui exhorte Ronsard fils à se détourner d'une vocation dans laquelle il ne saurait s'enrichir en gloire ou en monnaie.
Je fus souvente fois retensé de mon père, voyant que j'aimais trop les deux filles d'Homère et les enfants de ceux qui doctement ont su enfanter en papier ce qu'ils avaient conçu. Et me disait ainsi, « Pauvre sot, tu t'amuses à courtiser en vain Apollon et les muses. Que te saurait donner ce beau chantre Apollon? Qu'une lyre, un archer, une corde, un fredon qui se répand au vent ainsi qu'une fumée ? Ou comme poudre en l'air vainement consumée. Que te sauraient donner les muses qui n'ont rien, sinon autour du chef je ne sais quel lien de myrte, de lierre, ou d'une amorce vaine, t'allécher tout un jour au bord d'une fontaine, ou dedans un vieil antre, afin d'y reposer ton cerveau mal rassis et béant, composer des vers qui te feront comme plein de manie, appeler un bon fol en toute compagnie. »
Après cette description bien peu engageante du métier de poète, écoutons Louis de Ronsard encourager son fils à embrasser d'autres carrières. D'abord celle d'avocat.
« Laisse-moi, pauvre sot, cette science folle. Hante-moi les palais, caresse-moi Bartole. Et d'une voix dorée, au milieu d'un parquet, aux dépens d'un pauvre homme, exerce ton caquet. Et fumeux et sueux, d'une bouche tonnante, devant un président, mets-moi ta langue en vente. On peut par ce moyen aux richesses monter et se faire du peuple en tout lieu bonneté. »
Acquérir le renom, s'enrichir par la force du caquet, hein, c'est-à-dire la puissance des plaidoiries, constituerait pour Louis de Ronsard une excellente profession pour son fils. Cela ne lui plaît pas, qu'à cela ne tienne, il lui propose d'embrasser la profession de médecin.
« Ou bien, embrasse-moi l'argenteuse science dont le sage Hippocrate eut tant d'expérience. Grand honneur de son île, encore que son métier soit venu d'Apollon, il s'est fait héritier des biens et des honneurs. Et à la poésie, sa sœur n'a rien laissé qu'une lyre moisie. Ne sois donc paresseux d'apprendre ce que peut la nature en nos corps. Tout cela qu'elle veut, tout cela qu'elle fuit, par si gentille adresse, en secourant autrui, on gagne la richesse. »
Vous voyez que le père rivalise de créativité pour convaincre le fils. Hein. La médecine, tout comme la poésie, lui dit-il, se trouve sous la tutelle d'Apollon. Et non contente de secourir autrui, sa pratique apporte honneur et richesse.
Ça, c'est amusant quand même, parce que pour un aristocrate censé incarner les valeurs chevaleresques du courage, de l'honneur et de la loyauté, en fait, Louis de Ronsard a tout de même d'étranges ambitions pour son fils. Dans sa bouche, en fait, la médecine et le droit, bah, ce sont des activités beaucoup plus lucratives que glorieuses.
Oui, en réalité, Ronsard s'amuse. Hein. Il nous offre là une véritable scène de comédie entre un père exaspéré et puis son fils rétif. Hein. J'irais jusqu'à dire que Molière n'est pas loin. Mais dans le fond, vous ne croyez pas si bien dire. Louis de Ronsard fait partie de ces modestes nobles de province qui se débattent entre la ruine et souffrent particulièrement de cette inflation galopante parce que depuis le début du règne de François Ier, il faut savoir que le coût de la vie n'a cessé d'augmenter. Hein. Et les revenus nobiliaires, eux, sont immuables. Hein. Donc, pour un cadet de famille sans fortune, comme Pierre de Ronsard, il n'y a pas d'autres alternatives que l'armée, les bénéfices ecclésiastiques ou l'achat d'un de ces offices dont la monarchie multiplie la création.
Et alors pourquoi dans ce cas il n'a pas choisi une carrière militaire qui aurait été plus conforme aux idéaux nobiliaires de l'époque et aussi plus propre à procurer gloire et prestige social ?
Louis de Ronsard y a bien pensé, hein. Après avoir vanté la carrière d'avocat et puis celle de médecin, je vous propose d'écouter comment il tente de convaincre son fils d'embrasser la carrière des armes.
Ou bien, si le désir généreux et hardi, en t'échauffant le sang, ne rend à coup hardi ton cœur à mépriser les périls de la terre, prends les armes au poing et va suivre la guerre. Et d'une belle plaie en l'estomac ouvert, meurs dessus un rempart de poudre tout couvert. Par si noble moyen, souvent on devient riche, car envers les soldats un bon prince n'est chiche.
Nous sommes estomaqués, c'est le cas de le dire, par ce père qui préfère voir son fils mort sur le champ de bataille vivant et poète. Il faut rappeler ici que Ronsard a contracté lors de son voyage auprès de Lazare de Baïf une maladie qu'il a laissée, comme il dit, demi-sourd. Certains commentateurs y ont vu le signe du destin et peut-être l'origine de cette vocation poétique. En tout cas, sans aller jusque-là, on peut penser que cette surdité partielle a pu lui fermer la carrière militaire. Mais lui-même, si on l'en croit, nous dit que sa vocation à faire des vers et à fréquenter les muses était de toute façon irrésistible.
Pour menaces ou prières ou courtoises requêtes que mon père me fit, il ne sut de ma tête ôter la poésie. Et plus il me tensait, plus à faire des vers, la fureur me poussait.
Finalement, vous voyez que Ronsard considère qu'en choisissant la carrière de poète, il fait don de sa personne à la France, hein, tout autant, sinon plus encore, que s'il avait suivi la carrière de soldat. Il dit « j'enrichis notre France » avec un orgueil, un juste orgueil, hein, le profit. Et d'abord pour la France, qui grâce au poète va se voir dotée d'une poésie immortelle dans sa langue, dans la langue vulgaire qu'est le français. Et cette richesse, en retour, bien sûr, bénéficie au poète en lui conférant renom et immortalité. Voilà, Ronsard évoque souvent l'idée selon laquelle sa carrière de poète, finalement, n'est pas moins remarquable qu'une carrière militaire.
Puisque Dieu ne m'a fait pour supporter les armes et mourir tout sanglant au milieu des alarmes en imitant les faits de mes premiers aïeux, si ne veux-je pourtant demeurer oscilleux. Ince, comme je pourrais, je veux laisser mémoire que j'allais sur Parnasse acquérir de la gloire, afin que mon renom, des siècles non vaincus, rechante à mes neveux qu'autrefois j'ai vécu caressé d'Apollon et des muses aimées, que j'ai plus que ma vie en mon âge estimé.
Finalement, Ronsard fait un choix qui est peut-être un compromis avec les vœux paternels. Il sera clair tonsuré, ce qui va le vouer au célibat, mais d'autre part qui va lui garantir ce que l'on appelle les bénéfices ecclésiastiques, c'est-à-dire des revenus, pendant toute sa vie. Donc cela lui permet de se consacrer entièrement à la poésie. Et à la mort de son père, en 1544, le jeune Pierre de Ronsard a 20 ans. Il s'empresse alors de rejoindre ses amis qui sont au collège de Coqueret, où l'on retrouve Jean Dorat, dont on a parlé tout à l'heure, le professeur de grec, et puis du Bellay, Pontus de Thiars, tous futurs membres de la future Pléiade. Et bien ces jeunes gens en sont plus ou moins issus du même milieu social que Ronsard, ils partagent les mêmes contraintes économiques. Et ensemble, ils vont pousser à peine plus loin l'idéal humaniste de leurs aïeux, finalement, en affirmant, comme on l'a entendu tout à l'heure sous la plume de Ronsard, qu'un gentilhomme peut tout à fait honorer son nom et acquérir autant de gloire au service des muses qu'à la tête d'une armée.
En somme, on peut dire que c'est la convergence de l'esprit du temps, d'un milieu social et d'une vocation personnelle qui ont permis de faire éclore la poésie de Ronsard, non ?
Oui, on peut tout à fait dire cela. Reconvertir une noblesse terrienne et militaire en une classe économique et administrative, c'était beaucoup plus ardu que ne le croyait la génération de Ronsard père. Donc finalement, transférer d'un objet à un autre l'idéal de gloire, d'héroïsme courtois, qui avait été pendant des siècles l'éthique essentielle finalement de la noblesse d'épée, eh bien c'est beaucoup plus facile. Pierre de Ronsard le sait et ne perd pas une occasion de rappeler au lecteur cette nouvelle extension finalement de l'idéal nobiliaire. Fait-il l'épitaphe de Pierre de Comines, Eh bien, il montre en lui l'ancêtre des gentilshommes de lettres. Je cite « Le premier gentilhomme qui, d'un cœur vertueux, fit à la France voir que c'est honneur de joindre aux armes le savoir. » Envoie-t-il un poème à Pierre Lescot ? Il n'oublie pas de le féliciter d'avoir inscrit sa vocation poétique dans la lignée d'une famille noble.
Et Ronsard n'est pas le premier, et ses précédents le justifient.
Oui, absolument. Il n'est pas le seul à avoir renoncé aux carrières d'État, aux armes, pour honorer son nom, par les exploits de son esprit, finalement, comme ses ancêtres l'avaient fait par leur prouesse chevaleresque. Cet adieu aux armes, qui sont normalement l'apanage de l'aristocratie militaire, se donne à entendre fréquemment, explicitement ou implicitement, dans de nombreuses pièces de Ronsard. Et en termes mythologiques, par exemple, cela se traduit dans les amours, quand le poète se décrit comme « appelé par Vénus et sa couronne de myrte », plutôt que par Apollon et son laurier, qui normalement sont l'apanage du front des combattants glorieux. Donc cette gloire littéraire ne le cède point, comme il dit, à la gloire militaire.
Oui, mais encore faut-il que cette gloire autoproclamée soit validée par les faveurs du public. Comment Ronsard va-t-il acquérir sa notoriété ?
Eh bien, le projet de Ronsard et des poètes de la Pléiade relève effectivement d'une forme de pari. Et pour le gagner, la première chose va être de conquérir la cour. En 1547, c'est Henri II, vous savez, qui succède à François Ier, et son épouse, Catherine de Médicis, règne sur une cour cultivée. C'est vraiment une nouvelle ère poétique qui commence. Pierre de Ronsard est né sous le règne de François Ier, mais c'est vraiment à la cour d'Henri II qu'il va faire ses armes poétiques. Il écrira dans une lettre, je cite, « Je hais la cour comme la mort ». Mais en vrai, il a évidemment besoin de sa reconnaissance. Et donc, il y entre en conquérant en 1550 avec la publication des quatre premiers livres des Odes. C'est le titre, hein. Et ces Odes disposent d'une préface qui est extrêmement hautaine, dans laquelle Ronsard écrit ceci. L'imitation des nôtres, c'est-à-dire des auteurs français, l'imitation des nôtres, mais tant odieuse, d'autant que la langue est encore dans son enfance, que pour cette raison, je me suis éloigné d'eux, prenant style à part, sens à part, œuvre à part, ne désirant avoir rien de commun avec une si monstrueuse erreur. Il faut, pour comprendre finalement cette arrogance, hein, se souvenir que l'année d'avant, Joachim du Bellay avait déjà fait paraître la fameuse « Défense et illustration de la langue française », mais aussi « L'Olive » et plusieurs autres recueils. Donc si Ronsard veut rivaliser, vous comprenez qu'il doit frapper très fort.
Et ça, c'est vraiment une drôle de façon de conquérir les faveurs du public. Il critique les poètes français que ce public a lui-même apprécié. Comment les odes sont-elles reçues à l'époque ?
Eh bien oui, elles reçoivent un accueil mitigé. Hein. Avec ce titre, les odes, Ronsard se mettait sous le patronage d'Horace, mais aussi de Pindare, parce que, à l'imitation de ce poète grec, Ronsard célébrait dans ses odes les plus grands personnages de son temps. Ainsi, il faut comprendre qu'avec cette première grande œuvre, il pensait à la fois séduire les potentiels protecteurs, affirmer sa posture à l'antique, en reprenant donc Horace, Pindare, et aussi exercer ses talents dans un style élevé et vraiment se présenter comme l'inventeur de l'ode française. Entre nous, je dois quand même dire que ce n'est pas tout à fait exact, car Marot pratiquait déjà ce genre de l'ode sous le nom de chanson. Mais qu'importe. En tout cas, le résultat, c'est que cette œuvre est mal comprise et son style est jugé vraiment ampoulé, va faire l'objet de railleries à la cour. C'est donc vraiment un accueil mitigé qui va obliger Ronsard à réorienter sa stratégie de conquête de son public et de cette cour. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles il va publier dans la foulée un second recueil. Cette fois, ce sont des sonnets imités du poète italien Pétrarque, entièrement dédiés aux amours du poète pour la belle et fière Cassandre.
C'est ce qui s'appelle mettre de l'eau dans son vin.
Et oui, absolument, car dans la préface des Odes, il avait critiqué ce genre poétique du sonnet hein, et du canzonnière, en unissant dans son mépris les médiocres rimeurs et puis aussi les courtisans qui, disait-il, n'admirent qu'un petit sonnet pétrarchisé ou quelques mignardises d'amour. Mais en même temps, Ronsard est bien obligé de constater que ces Odes à l'antique n'avaient pas remporté du tout le succès escompté. Donc, il se voit obligé de faire ce qu'on pourrait appeler une concession à la mode. L'Olive de Joachim du Bellay était un recueil pétrarchiste et avait fait l'objet d'une réédition augmentée en 1550. Pontus de Tiare, un autre poète connu de l'époque, hein, ajoute une continuation à un recueil qu'il avait appelé « Ses erreurs amoureuses », pour ne citer que ces deux poètes. Donc, on imagine aisément comment notre Ronsard conquérant, avide de gloire en 1550, perçoit le succès de ses rivaux. Donc les amours commencent à paraître en 1552. Ce sont donc, je l'ai dit, principalement des sonnets reprenant tous les codes de l'amour courtois.
Donc c'est un revirement complet de Ronsard ?
Pas tout à fait. En réalité, le titre des amours rappelle finalement plutôt Ovide que Pétrarque. Et la même année que le premier livre des amours, Ronsard fait paraître le cinquième livre des odes. Donc vous voyez cette imbrication finalement des odes et des amours est corroborée aussi par la présence d'un supplément musical qui est commun aux odes et aux amours, aux deux œuvres. Et là, c'est une très grande innovation éditoriale, nous en reparlerons. En outre, Ronsard ne renonce pas au style élevé. Finalement, si vous voulez, il invente une sorte de ce qu'on pourrait appeler un pétrarquisme épique.
En fait, malgré sa concession à la mode du sonnet d'amour, on comprend que Ronsard cherche encore à se placer au-dessus des autres.
Cette arrogance est aussi une fierté qui est méritée, hein, qui est légitime. Avec les odes et les amours, Ronsard a vraiment déployé toute l'étendue de son talent dans une œuvre qui se montre exceptionnellement abondante, originale et variée. Il a parcouru tout l'éventail des genres, affiché une ambition d'un pétrarquisme rehaussé, mariant hellénisme et même marotisme, propre vraiment à séduire tous les publics. Et Ronsard le soulignera lui-même dans une pièce écrite en 1560 qui s'appelle « L'élégie au seigneur L'Huillier ». Voici ce qu'il écrit. « Entre tous les Français, j'ai seul le plus écrit. Et la muse jamais en un cœur ne se prit si ardent que le mien. »
Est-ce qu'il faut prendre Ronsard au sérieux quand il se vante d'être le seul ?
Eh bien, cela ne durera pas toujours, nous le verrons, mais oui, dans cette décennie du milieu du siècle, il faut bien reconnaître que cette stratégie qui visait à composer avec la mode sans perdre son tempérament poétique a vraiment fonctionné. La cour est conquise, Ronsard est reconnu comme le grand poète du nouveau règne. Le roi lui accorde même, ce qui est une faveur tout à fait exceptionnelle, dès 1554, un privilège qui lui permet d'imprimer toutes ses œuvres déjà publiées, mais aussi toutes les œuvres à venir, c'est dire la confiance que le roi a dans son poète. Il faut ajouter aussi que en 1558, l'année 1558 voit la mort du poète qui était jusque-là le poète préféré d'Henri II, Mélin de Saint-Gelais. Et puis, 1560 voit la mort de Du Bellay et de Maurice Sève. Donc, ses principaux rivaux disparaissent, ce qui, de fait, va favoriser son ascension. Donc, on peut dire qu'au moment où il succède à Saint-Gelais comme conseiller et aumônier du roi, donc en 1559, il est vraiment le prince des poètes, sa notoriété à la cour est vraiment définitivement assurée, et au cours des années suivantes, on sait qu'il joue un rôle vraiment majeur dans l'organisation des différentes fêtes de cour, les mascarades, les ballets, dont on sait que Catherine de Médicis était très friande.
Vous avez dit prince des poètes, mais poète des princes aussi.
En effet, Guillaume Budé, ce grand humaniste, avait déjà inversé les rapports entre princes et écrivains. Dans un texte qui avait été écrit en latin, qui s'appelle le De Philologia, Guillaume Budé déclarait que les princes, parce qu'ils doivent leur réputation aux poètes, étaient leurs obligés. Et donc, bien sûr, Ronsard ne va cesser de rappeler cela, et ce, dès le début de sa carrière, dès sa deuxième ode. À l'époque, il félicite Henri II de l'avoir choisi comme chantre. Il n'a que 25 ans, c'est son premier livre, mais qu'importe, il est convaincu de son fait. Et cette conception aussi qu'il va développer d'un poète démiurge, d'un poète vates, prophète, qui ressuscite les morts, qui immortalise les vivants, eh bien, cette conception du poète va contribuer également à lui forger vraiment une place de choix auprès des monarques. Tout simplement parce que sans le poète, eh bien les hommes et puis les événements vont se succéder et tomber dans l'oubli. Autre exemple, devant les tombes royales à Saint-Denis, Ronsard ne manque pas de rappeler à la reine régente qui est à côté de lui que deux ou trois seulement de ces monarques enterrés là ont eu une vie posthume, ceux qui ont su s'attacher des écrivains.
Donc Ronsard, il a une place de choix auprès des monarques de l'époque. Mais est-ce que sa carrière va connaître tout le temps un succès continu comme ça ?
Non, elle n'est pas sans connaître des déboires et des échecs. D'abord, ceux que vont connaître souvent les poètes à gages, dont la créativité finalement est soumise à de fortes contraintes sociales et politiques. En 1560, Ronsard reconnaît qu'il traverse, après cette décennie de 1550 dont nous avons parlé, qui a été d'une fécondité absolument exceptionnelle, il reconnaît qu'il traverse une sorte de tarissement de son inspiration. Voici ce qu'il dit. « Au rossignol muet, tout semblable je suis, qui maintenant un vers dégoisé, je ne puis. » Et ce sont, étonnamment, les guerres de religion qui vont lui rendre l'inspiration et le succès quand il va publier en 1562-1563 des petites plaquettes qui ensuite seront rassemblées en un recueil appelé « Les discours des misères de ce temps ». C'est un Ronsard engagé qui réagit à l'actualité politique et religieuse en écrivant, comme il le dit, d'une plume de fer sur un papier d'acier. Il écrit des discours qui sont adressés au jeune roi, à la reine régente, au peuple de France, mais aussi aux protestants. Et dans ces discours, que fait-il? Eh bien, il déplore, en alexandrin, l'alexandrin qui est le maître le plus proche de la prose, très adapté à ce type de discours, hein, mais aussi qui est un maître épique pour déplorer la guerre, hein, eh bien, il déplore l'état d'une France soumise à ces guerres fratricides que vous connaissez. Il attaque aussi férocement les poètes protestants, en faisant montre d'une virtuosité poétique qui vise vraiment autant à plaider pour la paix, en vertu de l'unité du royaume, qu'à faire aussi, bien sûr, la démonstration de sa supériorité poétique. Et c'est un succès absolu. Ses contemporains même y voient d'ailleurs le chef-d'œuvre, hein, de Ronsard. Et puis, en 1565, Charles IX offre à Ronsard le prieuré Saint-Côme. Ronsard va s'y installer, un petit peu las de la vie à la cour, probablement fatigué de cette carrière de poète courtisan. Et il s'y retire pour travailler à son grand projet épique, qui est le projet de la Franciade. C'est une commande royale que le roi attend et qui ne vient pas. On sait que finalement, seul... les quatre premiers chants seront publiés bien plus tard, en 1572. Donc c'est une période à nouveau relativement de tarissement un peu de son inspiration.
Et cette période marque aussi la fin de sa carrière à la cour.
Alors, eh bien non, parce qu'en fait, il va se trouver qu'après la mort de Charles IX, Henri III le rappelle. À cette époque, l'aimable et facile Philippe Desportes est le poète préféré du roi, le chouchou de la cour. Tout le monde apprécie ses amours qui sont d'inspiration pétrarchiste et néoplatonicienne. Ce rappel à la cour par Henri III, c'est vraiment pour Ronsard, c'est une motivation importante, hein, pour composer à nouveau des sonnets amoureux. D'autant que les poèmes d'amour que Ronsard avait publiés 20 ans auparavant, entre 1550 pardon, et 1556, eh bien ces poèmes d'amour sont à nouveau à la mode, notamment sous leur forme musicale. Alors Ronsard va publier en 1578 les sonnets pour Hélène. Il revient donc du coup à cette veine galante qui avait fait son succès vers 1552, mais il le fait sur un ton renouvelé, plus familier, puis aussi plus amer. Ce recueil, dont on se demande s'il n'est pas une commande, affiche clairement son objectif de plaire à la cour. D'un point de vue proprement littéraire, ce dernier canzonnière, hein, c'est-à-dire recueil de sonnets d'amour, ce dernier recueil de Ronsard, apparaît vraiment comme le défi du prince des poètes à son jeune rival qu'est Philippe Desportes. Et puis viendront les dernières années de Pierre de Ronsard, le prince des poètes, dernières années qui seront marquées par la maladie et puis progressivement la disparition de ses amis. Lui-même, Ronsard, meurt en 1585 dans son prieuré, le prieuré Saint-Côme, où il est enseveli dans la crypte de l'église qui aujourd'hui est en ruine. Écoutons-le, si vous voulez bien, composer lui-même son épitaphe.
Amelette, ronsardelette, mignonnelette, doucelette, très chère hôtesse de mon corps. Tu descends là-bas, faiblelette, pâle, maigrelette, seulette, dans le froid royaume des morts. Toutefois simple, sans remords de meurtre, poison ou rancune, méprisant faveur et trésor tant envié par la commune. Passant j'ai dit, suis ta fortune, ne trouble mon repos, je dors.
Vous venez d'écouter le premier épisode de la série Pierre de Ronsard, une révolution poétique. Un podcast de France Mémoire avec Luce Albert, maîtresse de conférences en littérature de la Renaissance. Lecture des poèmes par
Clara Gazo
et
Thibaut Gaulin.
Musique de l'ensemble Douce Mémoire. Conception Caroline Garde-Le Breton, Luce Albert, Marie Catelin. Réalisation Erwan Guillot.